Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, je vais prêter ma voix à un homme qui a connu la plus extrême des douleurs. Une douleur faciale qu'on appelle l'algie vasculaire de la face. Il s'appelle Christophe Taureau et il raconte son histoire dans un livre paru aux éditions Fauve, La vie est un sport individuel. C'est une histoire que j'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La première crise, c'était au bord de la mer, dans le Morbihan. Pendant les vacances en août 1985, j'avais 18 ans. Je me souviens, j'écoutais du Dao dans ma chambre. Sur un jerk électronique, ce nous des amours ludiques. Je n'ai rien vu venir. D'abord une gêne sur le côté droit du crâne, et puis une douleur, oh oui là, une douleur qui gagne du terrain. La voilà derrière l'œil, et puis dans la narine droite, décuplée. Difficile de respirer. Et puis, un voile sur l'œil. Des larmes. Je n'ai jamais ressenti ça. Comme un tournevis qu'on vous rentre dans l'œil. Une fracture ouverte, une amputation sans anesthésie. Une sciatique du ciboulot. Bordel! C'est quoi ce truc? Ça dure comme ça, deux bonnes heures, et après, plus rien. Et à partir de là, je pense à autre chose. J'ai 18 ans, mes parents m'ont offert de faire ma terminale dans un lycée français au Texas, à Austin. Yeah! Trop chic! Ça fait quoi? Un bon mois et demi que je suis devenu texan, et ça revient. Et ça ne passe pas inaperçu, il est midi et demi, je suis au self, mon plateau de malbouffe entre les mains. C'est tellement violent que je tombe dans les pommes. Et quand j'émerge, il y a trois ou quatre visages penchés sur moi, des types comme échappés d'une série américaine, chemise bleue à épaulettes, les rébans accrochés à la poche, talkie-walkie à la ceinture. C'est la police du campus. Hey, are you okay, man? What happened, man? A terrible headache. That's all. I'm fine now. I just need to sleep. I want to go back to my room. Je leur dis que ça va mieux, que j'ai besoin de dormir, que je veux retourner dans ma chambre. Et donc ils me conduisent en voiture jusqu'à mon bâtiment. Je suis sous le choc. Je suis sonné. Et je fais le lien, bien sûr, avec mon épisode breton. La douleur a de la mémoire. Ça n'est que la deuxième fois, mais sur mon lit, dans ma chambre. Je suis groggy. J'ai fait une crise. Là, je viens de faire une deuxième crise. Et s'il y en avait d'autres? La douleur? Le mal que j'ai eu ces deux fois-là? Il y a forcément quelque chose d'anormal. Et je tremble déjà à l'idée de la prochaine. Des prochaines, en vérité. Une crise. Deux crises. 20 crises tous les jours. L'ennemi se pointe en général en fin de matinée, sur les coups de 11h. D'abord une petite pointe derrière l'œil, ou presque rien, une gratouille. Mais je sais que c'est le top départ. Et là, personne ne peut plus rien pour moi, personne. Donc je m'isole. Je n'ai pas envie qu'on me voie comme ça. Je me recroqueville sur moi-même, la tête qui bouge de haut en bas, à se tirer sur la tignasse. Et parfois, je je me tape la tête contre les murs, et d'autres fois, je fais le poirier, à me foutre le feu dans les bras, pour faire affluer dans mon crâne le maximum de sang, pour diluer la douleur. Il m'arrive aussi d'aller courir, une heure ou deux, ou de prendre mon vélo pour provoquer une accélération cardiaque qui me soulage un peu. Et puis souvent, je prends une douche, glacée. Coup de chance, l'eau des sanitaires de l'université Saint-Édouard est gelée comme celle d'une fontaine. Il n'y a que ça qui peut apaiser la fin de la crise. La pluie gelée sur mon crâne meurtri. J'ai froid, je tremble, mais la douleur se fait plus douce. Alors je trouve la force de rester sous cette source à 10 degrés. Je suis venu là, aux États-Unis, à Austin, au Texas, pour passer ma terminale, pour passer mon bac. Je vais pas y arriver. Il y a un problème. J'ai épuisé tout ce qui a un rapport avec le headache, le mal de tête au drugstore du coin, le Tylenol, le Nurofen, l'Advil, le CVS, le Walgreens Pain Relief. Ça n'a pas eu plus d'effet que des M&M's. Il faut que je voie quelqu'un, comme on dit. Et là, on est aux États-Unis. Hein. C'est pas simple pour les Américains, alors pour un étranger, dans les années 80, c'est un gymkhana. Par un voisin de chambre dont la mère est médecin, j'obtiens un rendez-vous avec le cador local de la caboche. Professeur à la fac de médecine de l'Université du Texas, grand spécialiste de la migraine. Il paraît que je suis un privilégié. Lui aussi, remarquez, vu l'épaisseur de la moquette de son cabinet et le prix de sa consultation, 100 dollars, 1000 francs de 1985, et tout ça pour 5 minutes. Il ne m'a pas écouté. Un escroc. Et à la fin, il m'a donné un mini cachet de couleur rose en me disant « This is the end of your problem, son. » C'est la fin de tes problèmes, fiston. Un escroc. Aucun effet. Aucun. Ça fait 3 mois que je suis à Austin. Et ma vie est devenue impossible. Je manque un cours sur deux, presque tous les jours. J'ai pris du retard. Et mes parents, est-ce qu'ils savent ? Je les appelle, bien sûr, comme on appelle à l'époque, une ou deux fois par semaine, en PCV, d'une cabine. Yes? Yes, I want to collect call to France. To France, please. Et en plus, ça coûte une blinde. Et donc, ça dure rarement plus de 5 minutes. Ce que comprennent mes parents, je ne sais pas. Je ne veux pas les affoler. Et finalement, c'est le directeur du lycée qui les appelle. Et qu'il est convaincu que je dois rentrer en France. Et donc je rentre. Là-dessus, en France, ma mère décide de répondre par l'irrationnel, l'acupuncture. Le docteur Laurier, jolie demeure de pierre de taille en Touraine. Il paraît qu'il fait des miracles. Et d'après ce qu'on dit, le roi du Maroc lui-même, Hassan II, vient chez lui se faire planter des aiguilles. Ah oui ! Il me reçoit dans une pièce de sa maison. La salle d'attente est dans le couloir, il y a des odeurs de cuisine. C'est agréable, hein, cette ambiance familiale. Je lui explique mes symptômes. Ça ne semble pas l'impressionner. Il pose ses aiguilles. Bien. J'ai travaillé là où le bas blesse. Forcément, le nerf va se rebiffer. Attendez-vous à faire une ou deux crises dans les prochaines heures. Je suis retourné le voir une bonne dizaine de fois dans les années d'après. Il n'a jamais vraiment résolu mon problème, mais son calme, son assurance sans prétention m'ont toujours donné le sentiment assez rare et donc précieux, d'être dans de bonnes mains. la douleur ne frappe pas, c'est qu'elle frappera. La puissance de cette pathologie est de hanter ses victimes, parce qu'elle engendre un niveau de souffrance qui confine au supplice. La douleur, quand elle est insupportable, devient la peur. Elle s'immisce. Elle se diffuse dans chaque recoin de mon labyrinthe intérieur. Elle fait partie de moi. Cette peur est gravée comme un fossile dans une pierre millénaire. Après 2 mois de crise, elle m'a bouffé le cerveau. Il y a l'avant-crise, la crise, l'après-crise. Et moi, dans tout ça, il ne me reste que des miettes. À un moment, il faut bien redevenir cartésien et passer par le plus classique, le conventionnel, le rembourser ses culs. Et donc rendez-vous chez un ponte de la migraine, le docteur Boltanski, à l'hôpital Lariboisière, à Paris. Ça commence par un scanner. Écoutez, à l'analyse de l'image, je ne vois rien d'anormal. Ben, tout va bien alors. Mais je souffre toujours à crever. Vient ensuite le docteur que j'ai baptisé JST. Je sais tout. Un petit bonhomme aux cheveux gris, un peu voûté, costume de velours, cravate en laine à la Jean d'Ormesson, bourré de certitude et totalement dénué d'empathie, même s'il met un mot sur mon mal. Vous souffrez, monsieur, de ce qu'on appelle une algie vasculaire de la face. J'explique. Une artère que l'on appelle cérébelleuse vient comprimer un nerf que l'on appelle trijumeau, qui se situe là, entre l'œil et les oreilles. Je vais donc vous prescrire de l'avlocardil. Hein, c'est du chlorhydrate de propranolol, c'est un bêta-bloquant. Ça va bien vous soulager. Il dit ça avec tellement d'aplomb qu'on a envie de le croire. Mais nib, nada, rien de rien, aucun effet, ou si peu. Mais bon, ça m'a fait un peu de bien au moral, le sentiment d'être épaulé, d'être loin de la solitude des premières semaines de crise. Je rentre au Texas, je passe mon bac, pendant les examens, pas l'ombre d'une crise, ouf, et je m'inscris à Sciences Po à Paris. Après les 3 premières années de crise, perdu pour perdu, je décide d'aller voir un psy, un psychanalyste, rue de Rennes, à Paris. Accueil digne d'un équipage de Ryanair. Assez vite, je lui trouve un petit nom, le Mérou, à cause de ses lèvres et surtout du fait qu'il ne prononce pas un mot, ou presque. Alors ?
Alors quoi ?
Alors ?
Vous ne m'expliquez pas comment notre travail va se dérouler ?
Non. C'est votre travail. Alors ?
Je comprends sa démarche, cette façon de me responsabiliser, de m'obliger à prendre les choses en main. Il n'y a que moi qui peux démêler ce sac de nœuds. Mais enfin, j'ai envie d'un peu de dialogue, de conseils, d'une mise en route en douceur, d'une bougie pour guider mes premiers pas. Il m'est arrivé de rester des séances entières sans prononcer un traître mot. Bonjour, au revoir. Tiens, voilà 100 balles. Fumier. J'ai aussi essayé le magnétiseur.
Ah ben tu sais, ils font des miracles hein, parfois.
Moi, je n'ai jamais eu d'appétence pour ces pratiques, disons, parallèles. Je vais le voir chez lui. La quarantaine, pull col roulé, pantalon en velours côtelé, des méphistos neufs aux pieds, un petit cabinet dans le garage de son pavillon, froid, lumière jaunâtre.
Pourriez-vous me raconter, en détaillant avec précision, ce qui vous paraît problématique dans votre vie ? l'enfance, les sources de conflits, les regrets, les accidents. Je n'avais rien à perdre. J'ai parlé, une bonne heure. Il ne m'a jamais relancé, jamais demandé une précision. En vérité, il n'en avait rien à faire. Bien, je me suis connecté avec vous, monsieur. Il me semble y avoir un problème avec votre appareil digestif, hein. C'est le nerf de la guerre, hein, la digestion, c'est le moteur, c'est, si ça cafouille, c'est comme une voiture, hein, vous n'allez pas très loin.
Il a raison. J'ai déjà fait le lien entre mon ventre et mes douleurs. Mais est-ce que c'est la tension électrique de mes douleurs qui me colle des nœuds de chaise à l'estomac, ou est-ce que c'est l'inverse?
En tout cas, pendant votre récit, j'ai fait le ménage. Ça va mieux circuler là-dedans.
Autrement dit, sans me manipuler, par la seule force de ses ondes, il a nettoyé le carburateur. En pratique, ça n'a pas changé grand-chose. Quand j'ai une crise, je cherche des voies de délestage, une diversion. Je m'accroche à n'importe quoi, à autre chose. Tiens, c'est dommage que Pif Gadget ait disparu. C'était bien les gadgets. Où il est, mon vélo orange de chez Manu France que j'aimais tant?
Quoi? Claudia Cardinal serait avec Jacques Chirac? Sans déconner.
N'importe quoi, pourvu que je pense à autre chose, à des choses futiles, en total décalage avec ma souffrance. Ou alors, je regarde des séries débiles sur la 5. Voisin-voisine, tendresse et passion. Le vertige du vide fait un chouïa diversion avec ma douleur. Et puis il y a le sexe aussi. Je me demande si ça n'est pas l'arme fatale anti-algie. Baiser comme un animal, sans retenue. Et là, ton sang, qui file à toute allure dans tes artères, refoule cette putain de douleur comme le mistral chasse les nuages. Bon, la limite, c'est qu'il faut une crise et une fille, en même temps. Et puis moralement, ça me pose un problème. Je ne peux pas dire à ma petite amie, il faut s'allonger là tout de suite, j'ai une migraine, la réduire à une poupée gonflable. À un moment, je me suis demandé s'il ne fallait pas carrément aller aux putes. Sauf que mettons que je l'appelle, combien de temps va-t-elle mettre à arriver? Et puis en pleine crise, elle va me prendre pour un désaxé échappé de Sainte-Anne. En 1991, ça fait 6 ans que je souffre, et je couvre comme journaliste la finale de Roland-Garros, Agassi face à Jim Courier, pour BFM Radio et Tennis Magazine. Je dois intervenir toutes les demi-heures pour faire un point sur le score. L'angoisse. Comment est-ce que je vais faire si je commence à déguster juste avant d'intervenir? Pourvu que mon trijumeau soit au repos ce dimanche. Je l'ai fait. Courir a gagné. Et moi, j'ai tenu. Ça a duré 20 ans, cette vie. Cette vie avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'ai rendez-vous avec le docteur Lechat, neurologue. La trentaine, une voix un peu haut-perchée, et surtout de l'attention dans le regard. Après 2 décennies à en baver des ronds de chapeau, elle est la première qui montre une vraie compassion. Et cette empathie, c'est tout con, hein? Mais ça fait un bien fou. Quand j'entre dans son bureau, je ne sais pas qu'elle va changer ma vie.
Et le sumatriptan, on ne vous l'a jamais proposé?
Le quoi?
Le sumatriptan, c'est une injection pour tous ceux qui n'y sont pas allergiques. C'est d'une efficacité assez formidable. Vous faites l'injection vous-même en intramusculaire avec un injecteur automatique équipé d'une aiguille très fine. C'est très facile, hein. Il faut juste appuyer sur le bouton.
C'est nouveau?
Oh non, enfin, c'est pas très vieux non plus. 6 ou 7 ans.
Les bras m'en tombent. Ça
Ça fait peut-être 6 ans que ce machin existe et que je passe à côté de la solution. Alors j'ai ma part de responsabilité. Hein. À un moment, j'ai baissé les bras. J'ai déposé des armes au pied de l'ennemi. Je vous fais une ordonnance ? On tente le coup ? Allons-y, oui. De toute façon, au bon où j'en suis. Elle sort une feuille de maladie d'une couleur que je ne connaissais pas, gris-bleu. Ah oui, hein, c'est une ordonnance d'exception. Pour des médicaments à part, je ne suis pas en train de vous prescrire de l'aspirine. Je n'oublierai jamais l'air catastrophé du pharmacien à qui je tends mon ordonnance. Il la lit, il la relit, il lève lentement le visage. Venez, venez, on va se mettre sur la caisse complètement à droite, là, on sera plus tranquille. Bon, déjà, pour commencer, sachez que je l'ai en stock, ce qui n'est pas toujours le cas. Les clients sont rares, c'est un médicament très cher, comme vous le savez sans doute. Ah non ? Non, c'est quoi cher ? 45 euros l'injection. Je vais vous en donner 2 boîtes, ça fait 4 injections. Ah bon? Mais je peux avoir mal quasiment tous les jours, je vais pas aller loin avec ça. Attendez, voyons si vous n'êtes pas allergique. Ça ne fonctionne pas sur tout le monde, croyez-moi. Et surtout, vous laissez 6 heures entre chaque prise. C'est un produit qui secoue. Vraiment. En ce dimanche matin, ça fait 3 ou 4 minutes que ça commence à gratouiller à droite de l'occiput. Est-ce que j'ai peur de ce qui va suivre ? Oui, forcément. Hier, j'ai déplié et retourné la notice dans tous les sens, et j'ai découvert ce drôle de machin qui pourrait devenir le compagnon de mon quotidien. 2 petits cylindres bleus de 4 cm de hauteur. Pour se piquer, il faut se retirer du monde. Instinctivement, je choisis les toilettes. Je me retrouve sur la cuvette, le falzar en accordéon sur les chevilles. Je visse le cylindre sur l'injecteur, un gros stylo de la taille d'un Bic 4 couleurs, et clac ! J'ai rien senti. Oh zut, je saigne ! Je colmate avec du papier toilette. Quelques secondes après, je sens des picotements dans le haut du dos, comme si des milliers de fourmis se mettaient à courir à l'intérieur de moi. Le mal se débat, il tente une échappée vers la droite, il refuse de capituler, ce bâtard. Et ça marche ! En moins d'un quart d'heure, toute trace de douleur a disparu, et je n'ai aucun effet indésirable. C'est un choc presque aussi grand que celui de ma première crise. Je crois bien que j'ai trouvé la solution vers une nouvelle liberté. Je redeviens le maître du jeu.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.